Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'un sujet qui s'est réinvité récemment autour de la table, puisque des accords étaient en cours de préparation, un accord mondial sur les plastiques. Et les lobbies ont fait pression et les accords n'ont pas été signés comme ils auraient dû l'être, peut-être.
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu mi-novembre la troisième session du comité intergouvernemental de négociation sur le plastique. Donc, la présence et la production de plastique, l'utilisation de plastique et la présence de plastique. Et effectivement, les lobbyistes étaient très nombreux, puisqu'ils étaient 143 pour 38 scientifiques lors de cette troisième session. Et donc, la pression est de plus en plus importante de ces lobbies, de la pétrochimie, pour ne pas arriver malheureusement à des accords, alors qu'on connaît maintenant la toxicité du plastique, autant pour notre environnement que pour la santé humaine et du vivant en général.
Alors cet accord, il prévoyait quoi et qu'est-ce qui n'a pas pu être signé finalement ?
Alors cet accord prévoyait en fait d'étudier, de travailler sur le cycle de vie du plastique. Donc le cycle de vie, ça commence avec le pétrole, puisque le plastique est issu du pétrole, et ça va jusqu'à l'énergie utilisée pour sa production, son usage et ensuite son élimination. Donc les lobbies ont bloqué au niveau de l'intégration en fait de l'origine des plastiques, puisque effectivement ça concerne le pétrole. Donc il faut savoir que le plastique pose des problèmes à plusieurs niveaux. D'abord par rapport à sa fabrication, puisque c'est du pétrole qui est utilisé. Donc là, c'est en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre, tout ce qui est utilisation des énergies fossiles. Ensuite, c'est un problème par rapport à l'utilisation, puisque vous savez que très souvent, on parle des plastiques et des perturbateurs endocriniens, puisque beaucoup, beaucoup de plastiques sont des perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol A qu'on retrouvait dans les biberons, mais on a aussi les phtalates, on a aussi les parabènes, on a aussi les perfluorés. Et puis ensuite, c'est un problème au niveau des déchets, puisque les déchets plastiques sont très longs à être éliminés. Donc pour donner un ordre d'idée, une bouteille plastique, c'est entre 100 ans et 1000 ans pour éliminer cette bouteille. Et pour les poches en plastique toutes simples, c'est 450 ans. Donc au niveau des plastiques, le problème de leur toxicité, c'est aussi les produits qui sont rajoutés, en fait, les produits chimiques qui sont rajoutés aux bases plastiques. Et on sait qu'il y a 13 000 de produits ajoutés qui sont des toxiques graves reconnus pour la santé humaine et pour la santé environnementale.
Avec les chiffres que vous nous donnez là sur la période de destruction, de décomposition des plastiques, hein, c'est-à-dire que le recyclage est fortement conseillé ?
Alors non, parce qu'en fait le recyclage, utiliser par exemple, dire qu'on va recycler du plastique pour en refabriquer et que donc du coup c'est un matériau vertueux, en fait, on ne peut recycler que 30% du plastique. Donc ça veut dire que les 70% restants, il faut de nouveau les refabriquer. Donc de nouveau, on utilise du pétrole et en fait, on reste avec le même niveau de plastique et de déchets plastiques que nous avons actuellement. Or, cette production de plastique ne cesse d'augmenter, puisque entre 2000 et 2019, cette production de plastique a doublé. Donc on en est à 460 millions de tonnes par an, 460 millions de tonnes par an. Et cette production de plastique devrait tripler, pratiquement tripler, entre 2019 et 2050. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans une dynamique de diminution de la production du plastique, au contraire. Et tout simplement, en fait, parce que le plastique est considéré comme la bouée de sauvetage par les industriels pétrochimiques ou pétroliers, les industriels pétroliers. Puisqu'en fait, c'est une façon d'utiliser le pétrole, alors que l'usage du pétrole va fortement diminuer dans les années à venir, notamment au niveau de l'essence, tout ce qui est carburant. Donc, on voit que les grands pays pétroliers, justement, ont beaucoup bloqué au niveau de cette session de négociation. Donc, dans les grands pays pétroliers, on retrouve classiquement l'Iran, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite et d'autres. Et eux ne veulent absolument pas d'une diminution de production de plastique parce que ça équivaudrait à une diminution de l'achat de leur pétrole.
Alors là, on voit qu'il y a une guerre économique hein, face à la science et peut-être à la raison sur les groupes de pression. Et je crois que lors des discussions, il y avait 143 lobbyistes et une trentaine, une quarantaine de scientifiques.
Oui, et les lobbyistes étaient même plus nombreux que les petits États insulaires, les petits États insulaires qui justement subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique avec la montée des eaux, montée des eaux des océans. Donc ça qui est en lien en fait avec les gaz à effet de serre. Donc on voit que que la pression, puis en plus de négociation en négociation, on voit que ce nombre de lobbyistes augmente. Donc outre la question de ce nombre de lobbyistes, se pose aussi la question des conflits d'intérêts, puisqu'on retrouve aussi des personnes qui sont à la fois juges et parties, donc dans ces négociations. Donc vous comprenez que des négociations avec des négociateurs qui sont aussi, qui ont tout intérêt en fait à ce qu'on continue à étudier, à utiliser plutôt du pétrole, ça peut pas fonctionner. C'est un peu ce qu'on a retrouvé comme situation dans la COP28, puisque à la COP28, elle était présidée par une personnalité qui était issue en fait d'un grand groupe pétrolier et pays pétroliers. Donc on est plus ça va, si vous voulez, plus les conséquences en fait de l'utilisation des énergies fossiles est visible. Donc, que ça soit au niveau du réchauffement climatique, la montée des eaux, les périodes d'inondation, hein, comme on a pu voir récemment, comme on voit malheureusement encore dans les départements du Nord. Donc, plus ces conséquences sont visibles, plus la société civile prend conscience et fait pression, notamment au niveau des politiques. Donc, comme c'est un peu les politiques qui devraient décider de « on continue, on ne continue pas », les lobbies économiques de ces grands groupes et de ces pays pétroliers font de plus en plus pression et sont de plus en plus présents. Voilà. Ce qui, pour le réseau environnement santé, est un vrai questionnement parce qu'on ne peut pas à la fois être juge et partie.
Voilà, et le plastique, on le retrouve un petit peu partout, hein, finalement. Donc il y a les déchets que l'on peut apercevoir en se baladant dans la nature, mais il y a toutes les microparticules qui sont présentes dans l'eau, dans l'air, un petit peu partout, dans les végétaux aussi.
Dans les végétaux, on en a retrouvé en Antarctique, on en a retrouvé dans les Pyrénées. La neige des Pyrénées est truffée de microparticules de plastique et on en retrouve aussi malheureusement dans les cordons ombilicaux. Donc on voit que tous ces microplastiques, en fait, tout ce qui est plastique passe la barrière en placentaire. Et ça, c'est catastrophique parce qu'effectivement, on a des bébés qui naissent prépollués. Donc le réseau Environnement Santé avait lancé il y a quelques années, 3 ans je crois, une campagne justement pour dire stop aux bébés prépollués, c'est-à-dire que le bébé, dès sa construction dans le ventre de sa mère, commence déjà à être contaminé par tous les polluants de notre environnement.
Nathalie Ferrand-Lefranc, merci beaucoup
Avec plaisir.
et à très bientôt.
Au revoir.